Salut Loïc.
Ravi de t'avoir aujourd'hui pour ce premier relancement d'épisode de podcast qu'on j'ai décidé d'appeler coup de fil à un youtubeur. Pourquoi ? Parce que le concept est très simple. Je passe un petit coup de fil à un youtubeur et puis on discute de ce qui a bien fonctionné pour la personne dernièrement, de stratégie YouTube. Voilà, on part un petit peu dans tous les sens et on discute de YouTube au global avec la personne. Et on essaie d'en tirer des enseignements pour les personnes qui vont écouter ce podcast et qui sont donc sûrement dans la position d'avoir déjà lancé une petite chaîne YouTube ou alors qui y songent. Et donc, je suis ravi de recevoir Nico pour ce premier épisode car il peut nous prouver qu'on peut encore partir de pas grand chose sur YouTube en 2022 et réussir à exploser les compteurs. Donc, salut Nico.
Merci pour cet accueil. C'est un plaisir de participer à ce redécollage et je te souhaite tout plein de vues, tout plein de reach avec ce podcast qui, j'espère, aura plein de valeur. En tout cas, je vais faire de mon mieux pour distiller des pépites pendant cette demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, je sais pas combien de temps ça va durer.
Bah écoute, on va voir où ça nous mène. En tout cas, je suis vraiment content de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. On a déjà, pour être honnête, on a déjà discuté un petit peu il y a deux semaines de la vidéo que tu avais réalisée donc sur Notion versus Obsidian qui a très très bien marché sur YouTube et qui t'a ramené à peu près 5000 abonnés il me semble d'un coup alors que t'étais à une centaine d'abonnés, c'est bien ça?
C'est ça, je suis passé de 100 à 5000, enfin à peu près 5000 et c'est trop bien qu'on se soit appelé il y a deux semaines parce que les choses changent énormément donc c'est trop bien. Je te laisse animer le truc, mais ouais, il y a pas mal de réflexions derrière tout ça.
Top.
Je suis très, très content de partager tout ça.
Trop cool. Bon, écoute, déjà, pour qu'on remette un petit peu les gens au même niveau d'information, est-ce que tu peux commencer par peut-être te présenter rapidement et présenter un petit peu ce que tu fais sur ta chaîne YouTube?
Bien sûr. Alors moi, c'est Nico, j'ai 27 ans. J'ai ma chaîne qui est Nico Sefarad, de mon nom. J'ai commencé YouTube il y a à peu près un an, mais vraiment en side. Pourquoi ? Parce que j'étais encore ingénieur textile dans une PME à Lyon et je crée un podcast sur le sujet des sneakers qui est une de mes passions depuis l'adolescence et j'avais envie de documenter en fait mon chemin de créateur pour aider les personnes qui aussi voulaient se lancer dans le podcast. Donc je crée mon podcast qui était mon projet principal et j'avais cette chaîne YouTube en side pour documenter tout ça. Et de fil en aiguille, il s'avère que j'ai compris que YouTube était ma vraie passion. Il s'avérait que ça se passait pas très bien dans mon job de salarié. Et donc là, on est fin 2021. Je décide de poser ma démission, que je pose exactement en mi-janvier, un truc comme ça, 2022. J'arrête le podcast et tout s'arrête en fait. Toute la création s'arrête. Et là, gros changement de vie. Tu comptes les 4 mois de préavis. On est fin avril, début mai, et là, gros changement de vie. Je déménage, je quitte mon taf, je me reconvertis à la vidéo, et je me marie aussi, c'est pas un petit détail. Gros changement de vie, et donc là, on est en mai. Je reprends ma chaîne YouTube en juin, et là, je me dis, ok Nico, nouvelle vie, t'as plus d'excuses, YouTube, c'est ta vraie passion, t'as envie de kiffer YouTube depuis tellement longtemps, tu arrêtes de mettre tous les œufs dans le même panier, tu focuses sur YouTube. Et donc là, j'ai repris sérieusement en juin. Et voilà, après, il n'y a pas de sujet particulier. Moi, je sais que je veux être sur YouTube et je sais que je suis au début. J'explore tout simplement mon quotidien de créateur et j'ai un défi. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, j'ai commencé en juin 2022 et donc je me donne un an jusqu'en juin 2023 pour vivre de mes créations. Et l'idée, c'est d'atteindre un chiffre d'affaires de 20 000 euros en partant vraiment de zéro, parce que vraiment, j'ai aucun skill en création de contenu, en vidéo, en podcasting, etc. Et donc voilà, je veux incarner le gars qui part de zéro et qui se donne les moyens, quoi. Voilà un peu le pitch de la chaîne.
Trop cool. Et comment est-ce que ça te vient, en fait, parce que pour passer d'ingénieur textile à youtubeur, il y a quand même un monde, tu vois. Et surtout, que tu pourras nous en dire plus, mais il me semble que tu fais aussi des missions en freelance en tant que vidéaste.
Tout à fait.
Comment est-ce que ça devient, cette reconversion-là?
Je pense que ça, on est obligé d'en parler, mais ça s'est vraiment pas bien passé sur la fin de salariat. Je passe les épisodes de burn-out, etc. Mais on a une image très négative du burn-out, ce qui est vrai, mais il y a aussi toute cette partie introspection où tu te poses énormément de questions. Je pense que la période post-Covid et post-Covid nous a tous plongés dans ce genre de questionnement. Et c'est des questions de comment est-ce que tu te vois dans 10 ans, tu vois, le simple exercice de me projeter dans 10 ans et me dire, ok, t'as pas créé ton entreprise, ok, tu t'es pas pris sérieusement sur YouTube, moi ça m'effrayait quoi. Donc il fallait que je me lance. Donc ça c'est la première chose, c'est que tu sens au fond de toi, c'est presque sacral quoi, c'est ventral, tu sens dans tes guts que t'en as besoin. Mais au-delà de ça, tu sens aussi que t'as tous les codes. Tu consommes YouTube depuis tes 12 ans. T'as tous les codes de la plateforme. Tu kiffes la plateforme malgré toutes les atrocités qu'on peut retrouver. Tu sais comment ça fonctionne quelque part. Et t'as juste envie de passer de l'autre côté de la caméra. Et voilà. Là, la motivation, elle vient de là. Ensuite, par rapport à la vidéo, bah, je me suis formé. J'ai vidé tout mon CPF dans une formation qui s'appelle l'école Grain de Louis Fouché, de la chaîne Grain. Et donc, j'ai fait ça. Pendant mon préavis, en fait, en janvier, dès que j'avais du temps libre, je bouffais de la vidéo, de la formation vidéo. Et en fait, je me rendais compte que au fur et à mesure de la formation, je me disais, mais en fait, Nico, c'est assez évident pour toi. C'est la première fois, tu vois, de ma vie en 27 ans que je me disais, mais en fait, Nico, je crois que t'es fait pour ça. Et au fur et à mesure des missions, je me rends compte que ouais, bah, j'ai un truc pour ça, quoi. Donc, on peut se trouver une passion sur le tard. À condition qu'on se regarde dans la glace et qu'on se dise, ok, bah en fait, t'as les moyens de faire quelque chose de tes doigts, quoi.
Ouais, super intéressant. Après, bon, sur le tard, ça va, t'as 27 ans. Je pense qu'il y a des gens qui continuent à explorer très longtemps et qui se trouvent des passions à 45, 50, 60 ans.
C'est clair, tu vois. C'est clair, tout est relatif.
Finalement, ça te laisse beaucoup de temps pour explorer ça. C'est assez cool. Donc, t'as fait des premières vidéos où on en a déjà parlé il y a 2 semaines. Tu partais un petit peu dans tous les sens, toujours dans cette idée de documenter ce que tu faisais, plus que d'arriver et d'avoir un vrai objectif, tu vois, avec une vidéo en se disant, bah, je joue la découvrabilité ou je vais essayer de bien me positionner sur tel mot-clé ou tel mot-clé. T'étais plutôt dans une optique de tester des choses. Est-ce que tu peux nous parler dans quel état d'esprit t'es à cette période quand tu postes tes premières vidéos? Qu'est-ce que tu te fixes comme objectif si t'en as? Ou est-ce que t'es juste vraiment dans une phase de pure exploration à ce moment-là?
Alors, ta question porte sur la première phase avant la pause ou quand je reprends sérieusement mes vidéos?
Quand tu reprends, parce que avant, j'ai cru comprendre que t'étais vraiment dans un côté, ouais. Je documente ma création de podcast, etc. J'ai
été
créateur à passer le pas et à se lancer. Et donc après, quand tu reprends donc en juin 2022 ta chaîne et que tu te dis que tu veux être un peu plus sérieux entre guillemets à propos de YouTube, c'est quoi ta démarche, c'est quoi ton ambition à ce moment-là?
Alors il y a deux choses qui s'est passé pendant cette période de changement de vie là, c'est que j'ai lu deux bouquins. Je lis beaucoup en termes généraux, mais j'ai lu deux bouquins. Il y a Lost Connection de Joanna Rae qui m'a un peu sorti du burn-out, et il y en a un autre qui est très important qui est The One Thing de Gary Keller. Et qui te dit, focus sur une seule chose. Peu importe ce que tu fais, focus sur une seule chose. Et après, ça activera ce qu'il appelle les effets dominos. C'est-à-dire que si je me suis dit, si je fais tout pour poster une vidéo par semaine sur YouTube, il n'y a aucune raison pour que d'ici un an, tu vois, je l'ai là sur le, c'est très moche, mais il n'y a pas de raison que sur un an, tu n'atteins pas 1000 abonnés. Tu vois, il n'y avait pas de zéro ici avant. Et donc, je me disais, ok Nico, à partir de juin 2022 à juin 2023, tu vas poster une vidéo par semaine. C'est mon objectif. Après, que j'y arrive ou pas, c'est une autre question. Mais il n'y a pas de raison que ça ne prenne pas, en fait. Tu vas t'améliorer, tu vas explorer, donc tu vas apprendre sur toi-même, tu vas apprendre ce que tu vas raconter. J'étais vraiment dans cette démarche de la stratégie vient en faisant. Effectivement, je me suis pas niché et je me suis toujours pas niché aujourd'hui. Mais j'étais plutôt dans une démarche de contrôle ce que tu peux contrôler, c'est-à-dire ta fréquence de publication, contrôle la qualité de tes vidéos, et après le reste, normalement, il y a des choses qui suivront, quoi. Donc voilà, j'étais plutôt dans cette démarche de travailler sur soi et devenir bon vidéaste, bon youtubeur entre guillemets, produire des bonnes vidéos. Et j'étais pas trop dans l'objectif, dans des objectifs chiffrés, dans des objectifs d'impact, etc., analytics et algorithmique, quoi. J'étais vraiment pas là-dedans.
Ok, ça marche. Donc, pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, tu fais, il me semble, 21 vidéos, si j'ai bien bossé, pour atteindre un peu plus de 100 abonnés. Donc, tu
je
cumules
crois,
avec ces 21 vidéos plusieurs, ouais, c'est un truc comme ça, tu cumules à peu près plusieurs milliers de vues déjà. D'après mes recherches, donc quand j'ai préparé ma newsletter à ton propos, je crois que tu faisais à peu près 800, 900 vues de moyenne. Et là, d'un coup, tu publies une vidéo qui va changer le cours de ta chaîne.
Mmh.
Donc, qu'est-ce qui change, selon toi, principalement entre les 21 premières vidéos et là, d'un coup, cette 22e qui fait un score qui explose tout ce que tu avais connu jusqu'à présent?
Alors déjà les stats que tu as, elles sont quand même revues à la hausse parce que il y a quand même déjà eu l'effet de ma vidéo qui a pété sur les autres petites.
Ouais.
Donc en moyenne, je pense qu'on est vraiment autour de 400-500 vues et c'était énorme pour moi à l'époque.
Okay.
Et ce qui est drôle, c'est que dans la vidéo Obsidian versus Notion, j'en parle d'une vidéo qui a bien marché, mais j'aurais fait 400 vues, un truc comme ça. qu'est-ce qui a changé? J'ai vraiment tryhard cette vidéo. Il y a une grosse partie chance, hein, je vais pas le cacher. Comment je vais articuler ça? Déjà, il y a le sujet qui est clivant, je pense que c'est un bon mot, dans le sens où je savais pas, hein, je l'avais pas du tout intellectualisé, mais qu'il y avait une grosse communauté Notion. Donc Notion, pour ceux qui connaissent pas, c'est une application de gestion de projet de no code où tu peux un peu faire tout ce que tu veux, quoi. Il y a une grosse communauté Notion et qui est très soudé en fait, qui est très fier d'être une communauté Notion. Et donc ça, c'est le premier point, c'est que si tu vas titiller une communauté qui défend un truc, et ben là les gens vont réagir, ça va créer un petit engagement ou ils vont être curieux, tu vois. Donc ça, je pense que c'était une bonne idée déjà, ma vidéo de proposer une alternative à Notion. C'est la première chose. Ensuite, moi, ce que j'ai bossé énormément, c'est le storytelling. C'est comment est-ce que je raconte mon parcours sur Notion et sur Obsidian, qui est l'alternative que j'ai trouvée pour créer mon second cerveau. Est-ce que l'idée m'est venue comme ça? Non, parce que moi-même j'avais envie de créer mon second cerveau, et c'est là où j'en raconte dans la vidéo, mais j'ai lu tout ce que Thiago Forte a fait, j'ai suivi toutes ses vidéos, etc. Et en fait, j'étais encore dans cette démarche de documenter. Sauf que quand tu documentes, tu peux apporter ce côté storytelling, ce côté arc narratif qu'il n'y avait pas, je pense, dans les autres vidéos.
Que tu peux nous dire rapidement, pour les gens qui connaissent pas forcément le concept, qu'est-ce qu'est un second cerveau?
Bien sûr. L'idée, c'est que... alors, tout part d'un problème, si vous voulez savoir, c'est que je lisais beaucoup, comme je t'ai dit, et j'oubliais beaucoup. C'est-à-dire que les informations ne restaient pas. Et j'en avais marre d'être dans cette situation de « j'ai vu ça dans un livre » ou « j'ai vu ça dans un article, je sais plus c'est qui a dit ça ». Et en fait, le problème de ne pas sourcer ces informations, c'était vraiment un problème pour moi. Donc, il y a une solution qui s'appelle le second cerveau, qui est juste de déverser toutes ces informations dans un cerveau numérique, dans une seconde mémoire, dans un endroit unique où on peut se balader de nouveau dans ce deuxième Google, si on préfère, et retrouver et reconnecter des neurones, quoi, retrouver des informations, voir où est-ce qu'on a chopé ces informations, etc. Donc ça, c'est le concept de second cerveau. Et ce second cerveau peut être une application numérique. Et je parle notamment de Evernote, qui est une application de prise de notes, ou Notion, ou Obsidian. Il y en a plein, il y a des centaines. Voilà ce que c'est un second cerveau.
Ok, donc cette vidéo fait que finalement t'es passé d'une centaine d'abonnés à 5000 abonnés, dont beaucoup sont arrivés sur une vidéo de productivité.
Mm-hmm.
C'est bien ça.
Okay. Ouais.
Donc, est-ce que ces nouveaux abonnés, avant qu'on reparle un petit peu de ta vidéo en question, comment est-ce que tu l'as construite, etc. Est-ce que pour toi, ça a orienté les vidéos qui ont suivi, ou est-ce que t'es vraiment reparti dans une optique, je continue à documenter et j'essaie d'ajouter un petit peu de storytelling par-dessus pour faire des vues et pour essayer de faire grossir un peu mon audience? Dans quelle optique t'étais après ça?
Alors c'est drôle parce que le sujet de la productivité, je me l'étais fixé au début de mois d'août, enfin fin juillet, début mois d'août. Je me suis dit, ok, je vais sortir 4 vidéos sur la productivité en août. C'était ça mon projet de départ. Et là, on était effectivement 91-95 abonnés. On n'était même pas 100. Et dans tous les cas, j'allais faire cette vidéo sur la productivité. Il s'avère que la troisième a pété, ou la deuxième a pété, celle de Notion et Obsidian. Et donc derrière, effectivement, j'ai appris après coup que c'était une bonne idée de parler du même sujet qu'une vidéo qui pète pour fidéliser l'audience, pour augmenter encore une fois ce nombre d'abonnés. C'était pas du tout réfléchi. Dans tous les cas, je voulais parler de productivité. Et oui, dans en quelque sorte, ça a aiguillé le reste de ma chaîne parce que je sais que les gens sont là pour ça, quoi. Je vais pas changer complètement le sujet. Ça a joué sur l'écriture, mais on va en parler plus tard. La productivité, c'est pas le cœur de ma chaîne. C'est un des piliers que je veux explorer, mais c'est pas une chaîne de productivité, quoi. Voilà.
Ouais, clairement. Mais je remarque que par rapport à quand on en a parlé il y a 2 semaines, t'as un petit peu changé déjà ton discours et tu te disons que j'ai l'impression que tu veux plus capitaliser sur ce premier succès de ta vidéo plutôt que l'impression que j'avais il y a 2 semaines. Je sais pas si je me trompe.
Capitaliser, je sais pas, hein, parce que si je voulais vraiment capitaliser, là, je ferais des tutos sur Obsidian. On en demande plein, hein, des vidéos explicatives de gestion de connaissances, etc. Mais j'ai pas forcément envie de les faire.
Ok, et si on reparle de cette fameuse vidéo en question, donc j'ai consacré une édition de ma newsletter pour partager aux gens, selon moi, ce qui a fait le succès de ta vidéo, et donc j'ai parlé de plein de choses, donc tout ce qui est déterminant pour prédire et pour analyser surtout le succès d'une vidéo, donc à commencer par la miniature, le titre, comment est-ce que tu as construit ton arc narratif. Si on prend un petit peu dans l'ordre, au niveau de tes stats, est-ce que t'as bien constaté, j'imagine que oui, que tu avais un CTR, donc un click through rate, qui était largement supérieur aux autres vidéos ou pas?
Largement, ce serait mentir, mais je crois qu'il est à...
Non, pas largement.
Non, largement, non, pas largement du tout. Je crois qu'il est en dessous de 10. Il doit être autour de 7-8 et les autres vidéos, elles sont à 5-6 quoi. J'ai pas des très bons CTR, moi. Je sais que c'est un énorme chantier sûrement. Faut que je travaille quoi.
Et de toute façon, s'il est à 7-8%, ça reste 3-4 semaines après la diffusion, ça reste très bon. Mais est-ce que t'as pas remarqué que justement ce dernier s'était affaissé moins vite que sur les autres vidéos?
Ah, j'ai pas regardé. Après, je suis pas quelqu'un qui digue énormément les analytics, mais ce serait intéressant de regarder. Ouais.
Parce que ma première supposition sur le CTR, c'était ça, que du coup, t'as réussi à te maintenir aux alentours des 10%, disons, plus longtemps que sur les autres vidéos, et ça, couplé avec une bonne rétention sur ta vidéo, avec justement ce travail de storytelling que t'as fait, pour moi, c'est ce qui a fait que l'algo a continué à pousser ta vidéo et que t'as atteint ces 70 000, plus de 70 000 vues, alors que t'avais aucune vidéo qui était même à 5 ou 6 fois moins de vues, quoi.
Ah ouais, clairement.
Donc, si on parle de ta miniature, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu peux nous permettre de plonger dans ta tête? Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu l'as réfléchi, comment est-ce que tu l'as pensé? Et donner peut-être des astuces pour les gens qui voudraient reproduire un petit peu le même type de thumbnail.
Bien sûr. Alors déjà, je vais casser un mythe, c'est que y a rien d'original. C'est-à-dire que sur YouTube, on peut s'inspirer des autres, il n'y a pas de problème tant que c'est pas du plagiat. Et moi, j'ai une pratique que je suis très OK avec ça, c'est que je vais voir d'autres sujets, pas forcément de la productivité, etc. Ça peut être du sport, ça peut être de la tech, ça peut être même des chaînes beauté. Et en fait, je vais sur des chaînes et je classe les vidéos par popularité et je regarde les vidéos qui pètent, en fait, qui ont ce ratio date de publication, enfin, temps de sur la plateforme, sur vue. Et je regarde lesquelles fonctionnent le mieux. Et là, je comprends que le avant-après fonctionne bien sur YouTube. Ça, c'est le premier point. Alors, ça tombait bien parce que moi, c'est ce que je vivais, en fait. Là, pour le coup, c'est pas du... Des fois, tu vois, on pourrait croire qu'on storytell pour mentir presque, pour enhance le sujet. Mais non, j'ai vraiment eu un avant-après dans ma vie, Obsidian. Ça, c'est le premier point, le avant-après. Et aussi, les gens adorent les durées limitées. Le 30 jours sur Obsidian, quand tu limites ça, ça fait cliquer. Moi, le premier, tu vois, j'adore les challenges. Je suis un grand fan de Maddy Avella, Nathalie Andrew, tout ça, etc. Ils font des 30 jours avec des douches froides, 30 jours, j'ai quitté le sucre, etc. Bref, j'adore ça et je sais que ça marche. Donc ça, c'est les deux premiers points. Regardez ce qui marche, en fait. Faut sortir de ce truc de j'ai du talent, je sais ce qui va marcher, etc. Non, regardez ce qui marche. Les chiffres sont là. Faut mettre un peu son ego de côté et regarder et s'inspirer ailleurs. Et ensuite, le avant-après, il est assez simple. L'idée, c'est de montrer qu'avec Notion, j'étais pas bien. Avec Obsidian, j'étais beaucoup mieux. Et donc là, c'est un avant-après des plus classiques. Au départ, du départ, je voulais faire un zoom et vraiment couper mon visage en deux. Mais techniquement, j'y arrivais pas. Du coup, voilà, ça a donné cette miniature. Voilà.
Ça a très bien marché, mais c'est marrant ce que tu dis parce que c'est aussi pour ça que je me suis dit, de mon côté, je vais essayer d'analyser une vidéo YouTube par semaine parce que je me dis, en fait, il y a plein de créateurs qui se lancent, qui essaient de trouver des idées originales pour faire des bonnes vidéos YouTube, des bonnes thumbnails, etc. Alors qu'en fait, toutes les bonnes réponses sont là, tu vois. Il y a
exactement.
Juste à classifier, peut-être, à classifier ce qui fonctionne et puis à venir piocher dans ce qu'ont fait d'autres gens et venir pas copier, mais de toute façon, en voulant copier quelqu'un, on le fait forcément un petit peu à sa sauce toujours, mais venir s'inspirer de ce qui a marché et trouver le meilleur modèle à suivre pour la vidéo en question. Et toi, effectivement, le modèle avant-après que moi, j'ai appelé Enfer vers Paradis pour ajouter ce côté émotion que tu montres sur ta miniature via tes deux têtes, celle à gauche puis celle à droite. Donc, l'état de transformation. Mais effectivement, ouais, c'est marrant de voir que tu... que à la fois t'as pas un côté très analytique sur tes vidéos, mais t'as quand même fait cet effort que plein de créateurs font pas, d'aller voir ce qui fonctionne, même dans d'autres thématiques que la tienne, et venir calquer un modèle de vidéo où tu disais ok, je pioche des choses dont je sais qu'elles marchent et ça pourrait aider ma vidéo.
Ouais, et ça, il y a peut-être une reco qui serait intéressant pour ton audience, mais c'est un classique, c'est Still Like an Artist de Austin Kleon, qui t'explique clairement que rien n'est original. Et que tout le monde, en fait, tous les créateurs qu'on admire, eh ben ils font pareil, ils se copient entre eux et ils font ça à leur sauce et ça marche. Donc faut ouais, il y a vraiment ce mythe à casser quoi. La création, c'est pas du talent, c'est pas des éclairs de génie.
Non, clairement. Mais je pense que les gens sont de plus en plus conscients, tu vois. Quand tu regardes même les très grosses chaînes YouTube françaises, elles se sont clairement toutes inspirées de créateurs américains, quasiment. Et je pense que maintenant, c'est de moins en moins tabou. Les gens acceptent beaucoup plus que tu prennes une inspiration. Si le concept est pas calqué de A à Z, mais les gens acceptent que tu prennes une inspiration ailleurs et que tu ramènes dans ton univers, quoi.
Ah ouais.
Donc, donc on est toujours dans la tête de Nico. On a fait, on a notre miniature. Comment est-ce que t'as fait pour choisir un titre qui allait donc aider ta thumbnail à faire cliquer les gens? Moi, je dis souvent que la thumbnail, donc la miniature, a pour but de capter l'attention du potentiel viewer, de la personne qui est en train de scroller sur YouTube, et que le titre a plus pour rôle de faire convertir, donc de rajouter un petit élément de curiosité, de vraiment faire passer à l'action. Est-ce que toi, tu l'as construit comme ça? Comment est-ce que tu as choisi ton titre?
C'est clairement un combo, hein. Faut jamais séparer les deux. Effectivement, il y a ce truc, la tagline que je me fixe à chaque fois, c'est comment tu suscites la curiosité de ton viewer. C'est-à-dire que faut s'imaginer le feed où le gars ou la nana elle scroll, hop, qu'est-ce qui fait que je vais retenir l'attention? Premièrement, c'est le visage. L'œil humain connecte toujours plus facilement à des visages, à des sourires, à des expressions. Deux, à des lettres, du lettrage. C'est pour ça que j'ai mis des lettres. Donc une fois que avec ces deux éléments j'ai l'attention, je me dis ok, il faut que je fasse cliquer. Et là encore une fois, je reviens sur le truc de Notion, c'est que je vais montrer que il n'y a pas que Notion dans la vie. J'étais vraiment parti de ce postulat. Et donc il fallait trouver un mot fort, quitter Notion, ça me plaisait bien. Et pour Obsidian, je partais du principe que ma cible c'était vraiment les gens qui utilisaient Notion et qui s'y retrouvaient pas. Et donc, ces gens-là, ils connaissaient pas forcément Obsidian, donc il fallait que je mette le mot. Et donc, la meilleure décision, bah oui, parce que j'ai réussi à créer mon second cerveau. Et voici pourquoi, bah là, c'est le truc typique de, si vous voulez en savoir plus, cliquez, quoi. C'est vraiment la curiosité, c'est toute la réponse est dans la vidéo, donc allez-y, quoi. Voilà comment le titre s'articule.
Ok. Donc le quitter premier outil pour accéder au deuxième et ensuite un petit élément en fin de titre pour venir piquer la curiosité, sachant que je crois que dès qu'on scrolle, le voici pour toi est même pas visible. Le voici voici pourquoi.
Sûrement
donc,
ouais.
Donc vraiment le début du titre, ouais, donc le début du titre vachement important. OK. Donc, on a notre combo miniature plus titre pour faire cliquer les gens. Ensuite, donc tu disais que tu as fait un gros travail de storytelling ensuite dans ta vidéo pour faire rester les gens le plus longtemps possible dans la vidéo. Et donc, on sait que ça envoie un très bon signal à l'algorithme de YouTube. Mmh. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as construit cette vidéo en termes de storytelling?
Il y a un truc sur lequel je me suis basé, c'est le voyage du héros. Très rapidement, pour ceux qui nous écoutent, c'est un arc narratif qu'on trouve partout. Que vous regardiez vos séries sur Netflix, que vous regardiez des Pixar, des Disney, etc., ou que vous lisez des romans, c'est toujours quelque chose qui revient. Et comment ça s'articule, c'est que le héros, moi, dans l'occurrence sur dans la vidéo, je rencontre un problème, donc j'oublie tout ce que je lis. Je trouve une première solution, Notion. Je suis content de cette solution. Très vite, je me rends compte que ça ne fonctionne pas comme je voudrais. Donc, j'ai un deuxième problème qui est pire que le premier, c'est que non seulement j'oublie tout ce que je lis, mais en plus, malgré mes efforts, je continue d'oublier. Donc là, en fait, il y a un moment qu'on appelle les abysses, où le héros est sans solution, quoi. Et donc vient la lumière, la deuxième solution, qui est Obsidian. Et donc là, on revient, ça s'appelle le retour du héros, c'est que le héros revient avec la solution et son second cerveau qui marche super bien. Donc je me suis appuyé sur ça. Et en fait, ça collait parfaitement à ce que je vivais. Et c'est aussi pour ça, en toute honnêteté, que j'ai du mal à retrouver des idées remarquables qui fonctionneraient dans cet arc, parce que je trouve qu'il est très très puissant. Et donc voilà comment j'ai articulé mon storytelling. Après, je sais pas si tu veux rentrer dans les détails, parler d'accroche, parler de d'autres choses. Je pourrais en parler des heures de ça.
Bah écoute, je suis rentré dans les détails de mon côté aussi dans l'analyse de la vidéo avec des choses du style tu attends 17 secondes pour reconfirmer le sujet de ta vidéo et l'intrigue avant de te présenter. Du coup, tu commences à te présenter à 17 secondes, tu fais ça de manière brève, tu rentres de suite après dans le vif du sujet. Donc vraiment, ce qui est de l'étape par étape, j'ai déjà eu l'occasion d'en tirer des conclusions. Peut-être qu'on peut insister sur les moments clés, et je trouvais que ce que tu avais particulièrement bien fait dans cette vidéo-là, c'est que entre toutes les parties qui suivent ce que tu appelles le voyage du héros, je trouvais que les transitions étaient faites de manière fluide. Là, finalement, à chaque fois où on pouvait avoir une petite baisse d'intérêt, tu vois, une potentielle baisse de viewers, tu avais la bonne phrase pour nous faire avancer sur la partie suivante. Comment est-ce que tu l'as bossé, ça, au niveau de ton script?
C'est intéressant que tu aies ce regard, parce que c'est vraiment un truc que j'ai intellectualisé pour le coup. Moi, je deviens peu à peu un auteur de script, parce que j'adore ça, l'écriture. Et je pense qu'il y a deux choses. En termes de rythme, tu vois bien les moments forts, comme tu dis. Et comment tu travailles tes transitions, c'est par la voix off. Pour moi, ça, c'est mon côté vidéaste, peut-être, je ne sais pas. Mais je trouve que la voix off, plus des b-roll, des plans de coupe, et bah ça réveille un peu le viewer, tu vois. Et oui, non seulement la voix off, on pourrait se dire mais en fait tu pourrais faire ça en facecam, c'est pareil, mais non, parce que la voix off, d'une, a une qualité différente, a une intonation différente, et donc ces micro changements, je pense qu'il dit au cerveau du viewer, ok, il y a quelque chose qui va arriver, il y a quelque chose qui change, reste. Et plus tu multiplies ces micro changements, moins t'as envie de partir, en fait. Et c'est en ça que je trouve que effectivement j'ai assez réussi mes transitions, si ça répond à ta question.
Ouais, j'avais pas capté. Par contre, tu vois, faudrait que je revoie du coup maintenant avec un autre œil. J'avais pas capté que t'avais utilisé à chaque fois des voix off et des b-roll pour tes transitions. Mm-hmm. J'ai pas fait ce lien là. Mais je me souviens que je me disais, il a vachement bien ficelé son script de manière à ce que on avance, tu vois, à chaque partie finalement, avant de fermer une intrigue, commence à en ouvrir une autre, et on glisse de manière assez fluide jusqu'au bout de la vidéo, quoi.
Ouais, je suis content de ça.
Ensuite, de quoi est-ce qu'on peut parler? Qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant dans cette vidéo? Peut-être que tu peux nous parler aussi de ta petite mise en scène avec les trois types de personnes par rapport à la prise de notes. Je trouvais ça assez marrant et assez original pour le coup. Je trouvais que ça apportait un petit plus à la vidéo, ça m'a fait sourire. Est-ce que tu peux expliquer ce petit passage-là pour les gens qui ont pas vu ta vidéo et voilà, donner des conseils peut-être pour les gens qui voudraient faire la même chose?
Alors, pour resituer l'audience, c'est que j'ai incarné des archétypes. Qu'est-ce que des archétypes? En fait, l'idée, c'est que quand on construit un second cerveau, faut apprendre à se connaître d'abord soi, puis ensuite adapter l'application en fonction. Et donc, les archétypes, tu vas avoir l'architecte, le documentaliste ou le jardinier. Et en fonction de l'archétype que t'es, voilà, tu choisis ton application. Pourquoi j'ai choisi de les incarner avec des pseudo-costumes, mais vraiment à l'arrache avec ce que j'avais sous la main, on me voit avec un tablier, un chapeau de paille, bref, c'était marrant. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Parce que d'une, j'ai voulu me lâcher. Je trouvais que jusqu'alors, dans mes vidéos, j'étais pas assez moi-même, parce que dans la vraie vie, je suis pas non plus un clown, mais j'aime bien rire, quoi. J'aime bien faire rire le public. Ça, c'est la première chose. Et le truc que j'ai réalisé, c'est que plus tu travailles sur ton écriture, plus tu maîtrises ces moments d'humour, en fait. Et le gros danger quand tu fais de l'humour sur un sujet sérieux, ou pas d'ailleurs, c'est ces moments de cringe où tu veux faire le mec marrant et en fait personne rigole. Là, c'est trop malaisant. T'as qu'une envie, c'est de quitter la vie, quoi. Et donc, au moment de l'écriture, je savais que ça fonctionnerait. Parce que c'est pas trop lourd, parce que c'est fluide, comme tu dis, et que ça me ressemble bien. Donc voilà, c'est en ça que j'ai décidé de me lâcher et je suis content parce que ça a beaucoup résonné avec les gens et encore aujourd'hui on m'en parle, quoi.
D'accord, ça marche. Ok, la question que je me posais par rapport à la suite de cette vidéo, du coup. Alors on en a déjà parlé il y a deux semaines par rapport à tes miniatures où tu sais je te disais je trouve que quand on a une petite audience, on n'a pas besoin forcément de mettre sa tête partout sur les miniatures. Mmh. Toi, tu me disais du coup, et comme tu l'as redit ici, que pour toi, c'était le fait d'avoir un visage, c'était ce qui allait capter l'attention de la personne et donc ensuite l'associer à d'autres éléments comme des textes ou des changements d'émotion. Est-ce que t'es toujours sur ce positionnement? Est-ce que t'es toujours convaincu de l'importance de mettre sa tête partout sur les miniatures? Ou est-ce que t'as envie de tester peut-être des miniatures où tu ferais différemment?
Je pense que effectivement c'est des choses qui cohabitent, des miniatures avec et des miniatures sans tête. Mais ça dépend vraiment du sujet que tu veux aborder. Dès lors que tu incarnes ton histoire, je pense qu'il est judicieux de mettre sa tête. Si tu parles de l'histoire de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre, je sais pas moi, une analyse de... Enfin, moi tu parlais, je sais qu'il y a deux semaines tu me parlais de chaîne de foot. Bah là c'est plus judicieux de mettre la tête des footballeurs, effectivement. Quoi qu'il en soit, encore une fois, sur les miniatures il y a vraiment deux aspects, c'est la psychologie et le design. Tu peux faire un truc super beau, super léché, prendre ta photo en RAW et jouer sur tous tes contrastes et tout, si derrière ça parle pas aux viewers, ça sert à rien. Et si tu veux faire un truc 100% psychologie, bah t'as un truc moche. Typiquement je sais pas moi, des giga flèches rouges, et je sais que j'en utilise, mais des giga couleurs saturées, etc. Et bah c'est moche. L'idée c'est de trouver un entre deux. Et dans cette partie psychologie, je trouve que montrer sa tête c'est essentiel. Encore aujourd'hui. Mais je travaille sur des vidéos actuellement là. Je me dis, ce serait peut-être plus judicieux de mettre que ma main ou que mon bras, je sais pas. Donc ouais, ça dépend vraiment de ce que tu veux raconter.
Ok, parce que tu vois, je reste pour ma part sur cette position où quand je parle avec des petits youtubeurs, des petites chaînes entre guillemets, j'ai souvent cette réflexion qui revient de leur dire, si vous incarnez déjà votre vidéo et que vous êtes à l'écran en face cam pendant une bonne partie de la vidéo, le travail de vouloir marquer votre nouvel auditoire, les gens qui vous découvrent et de vouloir qu'ils vous retiennent, de toute manière, ça va être fait. Donc, je continue, tu vois, à avoir cette approche où je leur dis, puisque personne ne te connaît au début, bon, toi, t'as prouvé qu'on pouvait réussir en mettant sa propre tête sur le thumbnail, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes pour lesquelles, pour commencer à se créer un embryon d'audience, la manière la plus efficace, ça reste d'emprunter l'autorité de quelqu'un de connu, tu vois, d'une figure d'autorité dans son domaine. Et de se servir de... Après, bien sûr, il faut trouver la bonne idée, il faut trouver le bon titre, la bonne approche.
Ouais, mais regarde, pour une vidéo de productivité sur Notion et Obsidian, il n'y a pas d'autorité. Il faut bien l'incarner, tu vois. Ça dépend vraiment du sujet. Et typiquement, dans ta newsletter, je crois que tu prends l'exemple du foot. Mais ça, c'est typiquement l'exemple parfait. Tu vas profiter de l'aura de Mbappé, de Ronaldo ou je ne sais quoi, pour faire cliquer.
Ouais, il y a ça aussi. Mais tu vois, typiquement, pour moi, dans ton cas, on peut considérer que Notion est comme une figure d'autorité. Parce que justement, tu vois, pour la communauté que tu veux toucher, ça reste un outil qui est très largement utilisé et il y a même un affect des gens par rapport à ça. Donc finalement, je l'associe. Je pense que tu aurais pu, on va pas réécrire l'histoire, mais je pense que tu aurais pu faire une vidéo qui fonctionne autant en ayant une approche où tu focalises vraiment sur, tu joues autour du logo Notion, tu vois.
Et il est sur la thumbnail. Et
Ouais,
en
je
fait,
sais. Je sais.
là où
Mais.
tu peux faire du 100% logo, c'est sur des vidéos type présentation de l'application, les 10 features que vous ne connaissez pas. Quand tu parles de l'application, là, je parlais de moi, tu vois. J'incarnais mon histoire, donc pour moi, ça
Ouais.
faisait sens de me mettre dessus.
Ok, ouais. Ok, je
Ça
vois.
dépend vraiment du
Je
sujet
vois.
de la
Bon,
vidéo.
de toute façon. Ouais. Après, de toute façon, je reste convaincu que, tu vois, avec finalement une histoire de fond, tu vois, une idée bien ficelée sur un sujet donné, finalement, tu peux la faire rentrer dans plein de cases, tu vois. Tu peux avoir plein de filtres différents et faire une vidéo qui fonctionne. En ayant des approches, en fait, juste des angles différents, ça, j'en reste convaincu. Donc,
Ah, moi,
ça a
cette idée de
fonctionné avec d'autres
avant-après,
trucs comme
là,
cela.
elle vient des
Ouais.
dopamine détox qu'on retrouve un peu partout sur YouTube. C'est vraiment ça mon inspiration. Et tu regardes sur toutes les thumbnails, c'est le avant-après du mec qui mange des chips à côté, et de l'autre côté, t'as le mec qui fait du sport, quoi. Et moi, c'était ça mon inspiration de base. Et en
Ouais,
fait, ça
je vois
passe
bien.
forcément par un avant-après du visage.
Intéressant, intéressant. Et quand tu t'inspirais comme ça de vidéos qui partaient sur le modèle avant-après, sur la miniature, est-ce que tu regardais aussi les titres pour voir quel modèle suivre?
Oui, clairement, je les note et je prends des notes, etc. sur les titres qui fonctionnent. Après, je prends pas forcément le combo en entier, c'est-à-dire que je vais peut-être m'inspirer d'une miniature sur la dopamine détox et prendre un titre d'une chaîne du beauté, j'en sais rien, tu vois. Et après, j'essaye de
Ouais.
voir si les deux, ça fonctionnerait ensemble. Moi, je sais que c'est ce que j'ai fait sur Notion. Je sais plus d'où vient le titre, mais je crois que c'est une chaîne lifestyle ou un truc comme ça. De mémoire, mais voilà, ça a bien fonctionné, donc ça pourrait presque être un framework, tu vois, le quitter 1-1 pour 1-1. Voici pourquoi, tu vois.
Ok. Un petit mot peut-être sur ta stratégie hors YouTube. Une petite parenthèse. Je sais que tu as commencé à poster, tu me disais, un réel par semaine.
Ouais,
Est-ce que tu
d'ailleurs, faut que
as,
j'écrive le mien
sur
là.
Instagram, est-ce que tu as un petit feedback là-dessus? Est-ce que ça te sert, enfin déjà, qu'est-ce que tu veux en faire? Est-ce que c'est juste pour tester, pour avoir de la visibilité? Est-ce que tu veux envoyer les gens vers ta chaîne YouTube, vers ta newsletter? Comment est-ce que tu vois l'expérience?
J'y vais avec beaucoup d'humilité sur Instagram parce que je considère que je suis loin d'être aussi bon que je peux l'être sur YouTube. Et donc j'y vais vraiment dans ce challenge de un reel par semaine pendant 12 semaines en mode j'explore quoi, j'apprends à faire du contenu court. Donc comment faire des belles boucles, comment écrire un truc impactant avec un hook de quelques secondes, mais vraiment genre 4 à 5 secondes, contrairement à 30 sur YouTube. Voilà, je suis dans cette démarche d'explorateur et d'étudiant. Ensuite, le but d'Instagram, bah, c'est de profiter du reach, si jamais un jour il y a du reach, voir comment déjà fonctionne l'algorithme, est-ce qu'il y a un intérêt. Je sais que le contenu court est là pour durer, et si tu veux que je pousse ma théorie, c'est que je pense que d'ici quelques années, YouTube va tout bouffer sur les contenus courts et longs. Donc je pense qu'il faut se former, quoi. Donc j'y vais vraiment en mode étudiant. En mode, il faut que je me forme et dans les quelques années où vraiment là, ça aura de l'importance, bah, je saurai faire du contenu court. Est-ce que tu veux que j'enchaîne sur le business model total
Vas-y, vas-y, vas-y.
Ouais.
Montre-nous donne-nous la vision d'ensemble.
Ouais, parce que effectivement, YouTube, j'aime bien dire que j'aimerais vivre de YouTube, mais c'est pas du tout comme on l'entend. C'est-à-dire que AdSense paye des cacahuètes. Et donc on peut pas compter sur ça à moins de faire du contenu sans sas, divertissant, etc. Et c'est une stratégie comme une autre, mais c'est pas mon truc. Soit t'as la stratégie affiliation où tu vas être une vitrine et tu présentes des objets, des applications et tu veux créer des partenariats, etc. C'est pas non plus trop mon kiff. Et j'ai plus une logique d'infoprenariat, même si j'aime pas du tout ce terme, mais plus entrepreneurial dans le sens où j'ai une audience. je regarde de quoi elles ont besoin, si je peux les inspirer à faire quelque chose, etc. Et voilà, créer une connexion plus intéressante avec mon audience plutôt que de juste faire des vidéos. Et j'ai commencé à faire des calls avec mon audience, créer des connexions comme ça. J'ai mis en place ma newsletter. Voilà, ça fait des échanges super, super épanouissants parce que c'est vraiment dans ça que je m'épanouis. Et puis après, effectivement, derrière, je vais voir ce que je peux développer comme produit ou expérience à vendre et monétiser, quoi. Mais ça viendra dans un second temps.
Trop cool. Donc, quand tu dis « vivre de mes créations d'ici juin 2023 », ça veut dire essayer de consolider ce petit cœur d'audience que tu as commencé à créer. Essayer de voir à partir de cette audience d'abord, qu'est-ce que tu peux proposer comme produit, service
exactement.
Aux gens qui te suivent, c'est ça?
Tu vois, en toute honnêteté, Loïc, je pourrais très bien là sortir une formation sur Obsidian. Je la mets à moins de 100€ et je suis sûr qu'elle part. Vraiment, je sens qu'il y a une tension et que les gens cherchent. Mais j'ai pas forcément envie d'être dans cette. J'ai pas envie d'être dans cette démarche-là. Je suis vraiment dans cette connexion à l'audience parce que je me suis rendu compte que c'est vraiment ça qui m'épanouissait. Je regarde de quoi ils ont besoin et puis après on verra. Et c'est aussi pour ça qu'à côté, je suis vidéaste, que j'ai des clients, que je fais des mariages, que je fais des events, etc. C'est que ça me permet de voir les choses un peu plus progressivement et pas être là en mode « putain, faut que je monétise vite, 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 quoi ».
Ok, donc tes missions en freelance, finalement, ça te permet de gagner du temps pour avancer sur ta construction d'audience et de voir où est-ce que tu peux amener ça, quoi.
C'est ça, c'est un peu le Pareto, le 80-20. Je mise 80% de mon temps sur la création de contenu et de construire petit à petit mon futur empire. Mais il y a toujours 20% de freelance où là, il faut rentrer de l'argent et payer les factures, quoi.
Ok. Tu as commencé à parler du contenu court, alors ça m'intéresse. Je dis peut-être une bêtise, mais je crois que tu n'as pas encore fait de shorts, toi, sur ta chaîne.
Non, je sais pas ce qui me retient, mais...
Ok.
Ouais, je suis très content de parler de ça avec toi. Peut-être que t'es plus avancé que moi sur le sujet.
Je voulais savoir ton point de vue parce que du coup, si t'es convaincu que le contenu court va avoir une très belle place dans les années qui viennent pour les créateurs de contenu, je voulais savoir du coup pourquoi ce choix de te concentrer sur les réels. Je sais pas si t'as fait TikTok aussi.
Non, pas TikTok non plus.
Que Instagram.
Ouais, que Instagram. Pourquoi? Vraiment, je vois que... Je trouve que c'est un bon laboratoire Instagram parce qu'il y a une audience plus qualifiée que TikTok. Et en fait, je crois que ce qui m'empêche de faire des shorts, c'est vraiment la plateforme, quoi. Ils y sont presque là, mais ils se cherchent de ouf, quoi, YouTube. Le feed, il est horrible. Ils n'arrivent pas à différencier les deux. Ça, je vois qu'ils sont en train d'annoncer des choses qui se mettent en place et c'est super intéressant. Et c'est en ça que je dis que je pense que YouTube va bouffer le marché du contenu court, au moins reprendre des parts de marché de TikTok parce que d'une, ils payent. Je vois bien qu'ils sont en train de mettre en place de la monétisation sur les shorts. Là où TikTok, c'est un fond commun que tous les créateurs se partagent. Instagram, ils sont complètement largués. Je pense qu'effectivement, c'est fait pour durer.
Alors, ça pourrait bouger, ce que tu dis là, parce que justement, TikTok essaie de contrer un petit peu ce côté YouTube paye et nous on donne des clopinettes aux créateurs de contenu. Je crois qu'ils veulent mettre en place un système similaire où ils caleraient des publicités entre les vidéos. Et il me semble qu'ils rémunéraient, alors à voir, hein, c'est encore, ça me semble, enfin je crois que c'est pas encore exactement mis en place, mais ça approche. Je crois qu'ils veulent tester de faire 1€ toutes les 1000 vues.
Ouf.
J'ai entendu parler de ça. Donc à vérifier, mais
c'est énorme.
Vraiment ça me paraît énorme le potentiel pour les créateurs, sachant que tu vois, moi j'avais fait mes tests sur TikTok, j'ai 2-3 vidéos qui avaient fait 200-300 000 vues. J'aurais jamais fait ça sur YouTube. C'est beaucoup plus dur, comme tu le sais, d'aller construire une audience sur YouTube et de faire de la vue. Donc s'ils mettent vraiment ça en place et qu'ils arrivent à le tenir, alors je pense que c'est un petit peu une espèce de produit d'appel, une période pour attirer les créateurs justement et dire attention, nous aussi on peut rémunérer. Mais à voir ce que ça donne. Et par rapport aux shorts sur YouTube, je te rejoins totalement. Moi, je bosse en tant qu'agent pour des YouTubeurs qui n'ont pas franchi le pas. Il y en a qu'un qui a testé les shorts. Et les résultats ont été mitigés. Et en plus, c'est venu, effectivement, tu vois, s'insérer au milieu de ces vidéos long format. Et les gens n'ont pas trop compris le délire, tu vois. Les gens de son audience n'ont pas compris cette... le fait qu'il y ait une vidéo courte qui vienne s'insérer au milieu de ça. Et ça pénalise même vis-à-vis des marques quand tu veux faire des collaborations, puisque elles regardent ta moyenne de vue sur... Ouais, moi j'ai eu le cas, tu vois, vu qu'elles regardent la moyenne de vue sur les 10, 15, 20 dernières vidéos en fonction des marques, elles font pas de différence avec les shorts, tu vois. Et t'as beau leur expliquer...
Attends, elles ont pas l'intelligence de regarder si c'est du contenu court ou du contenu long.
C'est pas ça, c'est que pour leur calcul, ils veulent continuer à compter, tu vois, ils réfléchissent pas à est-ce que c'est court, est-ce que c'est long.
D'accord. Voilà,
si le short performe moins bien qu'une vidéo longue, ils vont quand même le compter dans leur total de vues pour essayer de proposer un prix à la baisse aux youtubeurs, si tu veux. Grosso modo, c'est ça. Donc il y a ce problème effectivement que c'est pas très bien différencié, il y a pas une section à part entière. Et l'autre problème qu'il y a, c'est que si YouTube a dit il y a quelque temps, quelqu'un qui est en charge du coup des shorts chez YouTube, je sais plus son nom, qui a dévoilé que effectivement pour construire les shorts, ils avaient fait vraiment un mur, tu vois, entre les vidéos long format et les shorts.
Et ça Todd fait que Beaupré, je crois. Son nom.
C'est possible.
C'est le product manager de YouTube.
Mais ouais, c'est probable que ce soit lui. Et donc effectivement, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a un mur entre les vidéos long format et les shorts, qui fait que si jamais tu fais un short qui fait 1 million de vues et qui te permet de récupérer 30 000 ou 40 000 abonnés, ces mêmes abonnés ne vont pas avoir ta prochaine vidéo long format qui va te pousser sur leur fil d'actu et sur leur page d'accueil.
Ce qui est catastrophique.
Finalement, ça.
En vrai.
Ouais, ben finalement, ça permet de gonfler les stats d'abonnés. Mais ça veut dire que finalement ton taux d'engagement va baisser en fait. Donc voilà les problèmes auxquels ils font face, mais effectivement ils taffent dessus. Et je crois que le projet ça va être de, j'ai vu ça il y a quelques jours, d'extraire des shorts en fait à partir de vidéos long format et de pouvoir créer une passerelle. Tu vois un petit peu comme sur Instagram où t'appuies sur ta story. Tu partages un réel en story, t'appuies dessus et tu peux être redirigé sur le réel en entier. Mmh. C'est un peu pareil. Tu pourrais extraire des shorts de ton vidéo, de ton contenu long format et ramener les gens vers ton contenu long format à partir de ton short. Et là, ça deviendrait plus intéressant, effectivement.
Exactement. Moi, c'est un peu la feature que j'attends, effectivement. J'ai vu cette annonce il y a peut-être 2-3 mois. Et je trouve, du coup, que c'est le truc qui manque, quoi. C'est le bridge entre les deux. Parce que je trouve qu'on n'est pas dans le même mood quand on consomme du short et du long. Et tu vois, on oublie souvent que quand on parle d'abonnés et de vues depuis tout à l'heure, mais on oublie vraiment la qualité de l'abonné, quoi. Si s'abonne juste pour voir du short et des pics de avoir ces pics de dopamine, je vois pas l'intérêt. Je préfère presque qu'ils ne viennent pas et qu'ils ne s'abonnent pas. C'est en ça que c'est ça qui me gêne encore avec les contenus courts. C'est la qualité de l'abonné, c'est pas du tout la même chose.
Ouais, non, je suis d'accord. Et je pense que tu peux aussi avoir l'abonnement un petit peu plus facile, tu vois, via un short. C'est pas pour autant que derrière, bah, tu serais prêt à regarder une vidéo de 10 minutes sur un Notion, un kit Notion pour Obsidian, quoi.
Mais carrément. Et tu vois, je prends cet exemple de la VidCon de mai ou de juin, je sais plus, mais une nana qui tape le million d'abonnés sur TikTok. Tu sais, c'est le salon où tu vas voir tes créateurs de contenu préférés, là. Et il y a une TikTokeuse, elle tape le million d'abonnés, elle a eu personne de la journée, elle est rentrée à l'hôtel, quoi. Ça montre à quel point, en fait, les gens, en fait, il n'y a pas de connexion du tout avec le créateur. Alors que t'as les youtubeurs à 10, 15, 20 000 abonnés, ils ont leur audience qui viennent leur dire bonjour. Moi, je trouve que c'est hyper parlant, quoi.
Ouais, je suis d'accord avec toi, il y a une vraie différence. Et comme tu l'as dit, et c'est quand même un point important, pour le moment, à voir ce que fait TikTok, mais je vois personne avoir les reins assez solides pour venir concurrencer YouTube, donc c'est-à-dire quand même Google derrière, en termes de rémunération. Je pense qu'ils vont toujours garder le lead dans les prochaines années sur la rémunération du créateur.
Ouais, je pense aussi. C'est pas non plus des fonds illimités, parce que je crois que Google a pris... Je ne sais plus comment ils se portent au niveau santé, finance et économie, mais... Mais sur le terrain du long format, en tout cas, oui, ils sont intouchables. À partir de là, t'as une super bonne base pour faire ce que tu veux autour. Tandis que t'as Insta et Meta qui paniquent à côté, t'as TikTok qui essaie de grind.
Ouais. Bon, écoute, tout ça est à suivre, mais effectivement, je pense que c'est toujours possible, comme tu l'as montré, de partir de rien et de de réussir sur YouTube cette année. Alors c'est peut-être plus dur qu'il y a 10 ans. C'est bien possible.
Ça l'est.
Je pense qu'il y a, ouais, il y a plus de concurrence. C'est plus
mais il y a plus de demandes. Il faut pas oublier ça. Il y a de plus en plus de gens qui regardent YouTube, ouais. Et ça, c'est un truc qu'il faut comprendre quand tu débutes, c'est que ok, il y a plus de monde, mais il y a plus de monde qui regarde. Et ça, forcément, on le voit pas. Donc ça permet de lâcher un peu de charge mentale, de te dire ok, j'ai ma part du gâteau qui m'attend, gâteau qui est infini. Faut pas oublier aussi. Tu voles pas la place de quelqu'un, tu prends la tienne, c'est tout.
Yes. Quelle est la stratégie maintenant de Nico pour les prochaines semaines sur YouTube? À quoi s'attendre? Est-ce que tu repars sur, je fais 4 vidéos sur une thématique? Est-ce que tu gardes seulement l'objectif de fréquence? Tu pars sur quoi?
C'est un truc que je prends de Machiavelli qui expliquait que sur YouTube, tu peux créer 3, 4 à 5 fillers. C'est des vidéos qui sont faciles à produire, qui te demandent pas trop de travail. Et toutes les 5 vidéos, tu fais un banger. Tu essayes de faire un concept qui vise la découvrabilité. Donc, je vais essayer de faire ça. Tu vois, les dernières vidéos que j'ai sorties sont plutôt faciles et je suis incroyablement surpris de la résonance de ces vidéos. Je pensais pas avoir tapé le millier de vues, tu vois, par exemple, ou avoir autant d'engagement dans les commentaires. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, en termes de thème, je pense que je vais axer plus ma chaîne autour du défi que je me suis lancé, c'est-à-dire vivre de mes créations en un an, plus que des sujets. J'ai envie qu'on me suive pour ce défi, pour donner envie aux gens de faire pareil. Parce que on est plein à avoir peur, et c'est normal, on est plein à ne pas savoir comment se lancer, etc. Et je veux incarner le gars qui arrive. Je ne sais même pas si je vais y arriver. Mais pour l'instant, c'est ce que je veux incarner. Et c'est un peu ça la stratégie qui arrive pour les prochains mois. Et donc, il n'y aura pas que de la productivité. Je me suis rendu compte que j'adore parler de dev perso, même si j'aime pas du tout le terme. On va parler de filmmaking, etc. Comment faire de meilleures vidéos. Mais voilà, il y a plein de sujets que j'ai envie de traiter. Et je sais que ça va s'affiner au fur et à mesure. Voilà.
Ok, ça marche. Et pour toi, qu'est-ce qui différencie une préparation de vidéo normale, entre guillemets, donc une vidéo qui est assez facile à faire et ce que tu appelles un banger, donc une vidéo qui vise à une grosse découvrabilité? Est-ce que tu vas essayer de te réappuyer sur le même modèle de vidéo que ton premier banger, entre guillemets, ou est-ce que tu vas tester d'autres choses?
Alors, il y a deux choses à prendre en compte. Je pense qu'il y a l'espace et le temps, dans le sens où une vidéo banger, généralement, enfin comment moi je le vois, c'est soit tu prends ta caméra et tu sors de chez toi, tu vas vivre des choses ailleurs, soit tu fais des choses sur la durée, typiquement 30 jours à tester une application. Pour moi, ça déjà, tu pars sur des bonnes bases pour un banger, c'est-à-dire que les gens aiment voir des histoires sur le temps et ailleurs que chez soi, et des fillers, des vidéos qui sont là pour remplir, tu peux le faire ça entre les quatre murs de ta maison, tu peux juste prendre ta caméra et parler, tu peux juste faire des plans de coupe sympas. Voilà comment moi je vois la chose.
Ok. Et est-ce que tu essaies de... Du coup, donc toi, tu as plutôt ces deux filtres-là pour te fixer donc des cadres pour tes vidéos, j'ai envie de dire. Est-ce que tu classifies tes vidéos? Moi, je sais que c'est un truc... Il y a des créateurs qui font ça et qui vont définir un objectif principal par vidéo. Donc, pour être plus précis, ce que toi t'appelles banger, ce serait les vidéos qu'on appelle top of funnel, donc celles qui visent à avoir une découvrabilité maximale, quoi, pour sortir de ton cercle d'audience qui te connaît déjà, pour aller chercher des abonnés concrètement et faire des vues. Mmh. Après, t'as les vidéos qu'on appelle middle of funnel, donc l'objectif d'aller un peu chercher des abonnés, mais en même temps commencer à renforcer la relation avec les abonnés existants, et le bottom of funnel, qui là au contraire vise à faire vraiment une vidéo experte qui démontre ta crédibilité, qui renforce à fond les liens avec ton audience existante, mais dont tu sais qu'elle va pas aller foncièrement chercher des nouveaux abonnés et des vues. Est-ce que tu réfléchis comme ça aussi? Ou est-ce que c'est, ouais, tu te contentes de dire ok, une fois toutes les 5 vidéos, je fais un truc qui va chercher plus loin, et voilà.
Clairement chaque vidéo a une visée précise, et c'est aussi pour ça que je suis étonné que par exemple ma FAQ fasse plus de 1000 vues. Enfin, je m'y attendais mais pas du tout, parce qu'elle fait 40 minutes quand même. Mais je savais, tu vois, en faisant cette FAQ, que j'allais, comme je disais, je me répète, mais désolé, mais je pensais viser, je sais pas, 800 vues, quelque chose comme ça, et j'aurais été très fine avec ça. Donc je sais typiquement que ce genre de contenu, effectivement, c'est pour tisser un lien avec l'audience et de ne pas viser les vues. Et les fillers, ce que j'appelle les fillers, effectivement, c'est dans ce que tu appellerais du middle of funnel. C'est que tu es là pour te faire connaître auprès de ton audience, mais pas plus loin, quoi. Donc c'est très intéressant.
Ok. Et cette fréquence, du coup, de une vidéo toutes les cinq, du coup, c'est... est-ce que tu juges que c'est assez? Comment est-ce que tu as défini ce nombre?
Juste en termes de workflow, parce que faut pas se leurrer, une vidéo par semaine, qu'elle soit là pour remplir ou pour bang, c'est très très chronophage, genre l'écriture, le tournage, le montage, c'est du boulot YouTube. Et donc il faut bien se rendre compte que ça prend du temps, donc c'est la première chose. Et de deux, c'est que tu peux pas bang si toutes tes vidéos sont des bangers. Je prends l'exemple de MrBeast, bon c'est vraiment d'autres strates, d'autres mondes, mais toutes ces vidéos sont des bangers, à tel point qu'aujourd'hui, il y en a qui sont à la réflexion, ah mais dans cette vidéo, il fait gagner que 200 000 dollars, tu vois. Parce que le mec, il offre des îles, parce que le mec, il offre des trucs toujours plus gros. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que pour qu'une vidéo pète et sorte du lot, je trouve qu'il faut avoir ce contraste avec d'autres vidéos qui sont un peu plus calmes, quoi. Donc quand tu remplis et quand tu fais des vidéos filler, c'est pas non plus que pour l'algorithme, c'est pas que pour être présent, c'est pour aussi permettre à tes vidéos où tu taffes de ouf, bah, qu'elles sortent du lot et qu'elles contrastent. Voilà comment je réfléchis à cette cadence de toutes les cinq semaines.
Ok. Bah, de toute façon, pour ton objectif à toi, qui est avant tout de tisser un lien de confiance avec une audience, du coup forcément, je pense qu'il ne peut pas être ultra ultra important. De toute façon, tu peux pas avoir une vraie relation de confiance et une audience très engagée si t'as 50, 60 000 abonnés, tu vois, c'est pas possible. Mais pour toi, du coup, qui veut vraiment privilégier la relation avec un cœur d'audience, je pense que ça fait totalement sens en termes de stratégie.
Ouais, clairement.
Ok. Peut-être pour finir, j'aimerais bien savoir, du coup, tu as déjà parlé un petit peu, quels sont, selon toi, les trois créateurs de contenu, les trois youtubeurs de préférence qui t'ont le plus inspiré et qui, selon toi, si les auditeurs veulent aller chercher des modèles de vidéos, veulent s'inspirer, à ton avis, qui est-ce qu'il faudrait aller voir en priorité?
Alors trois, ça resserre pas mal le truc, hein, parce que je m'inspire vraiment de beaucoup de gens. Le premier, c'est le king du game pour moi, c'est Matt Diavela. C'est un filmmaker qui a réalisé le documentaire The Minimalist sur Netflix, qui, dans le style, dans l'intonation et dans le business model, je crois que c'est ce qui me fit le plus, dans le sens où c'est un YouTuber, il va faire effectivement ce truc de banger, filler. Il va chercher la découvrabilité, etc. sur certaines vidéos. Il a un filmmaking qui est ouf. Mais à côté de ça, tu vois, il rend service à son audience, quoi. Il vend sa petite formation à 200 dollars qui est, je trouve pas cher vu l'audience qu'il a. Il a tout un business model qui est super. Ensuite, en deuxième, et c'est celui qui m'a le plus, dans lequel je me retrouve le plus dans les sujets qu'il traite, c'est Niklas Kristol, qui est un vidéaste allemand, qui fait des vidéos sur du développement personnel et du filmmaking. Et en fait, ça m'a vraiment donné envie de traiter ces sujets-là. Par contre, lui, il a un filmmaking qui est bien trop développé pour moi. Genre, il est vraiment trop fort. Je sais pas, faut aller voir ce qu'il fait, mais j'ai l'impression qu'en termes de color grading, en termes de prise de vue, etc., il est trop fort. Donc ça, c'est deux filmmakers. Et si je dois choisir un troisième qui n'est pas un filmmaker... Je pense que je choisirais Léo Duff pour sa plume. Et on m'a déjà reproché d'ailleurs. Maintenant, j'ai quelques haters, mais on m'a déjà reproché de reprendre trop sa plume. Je vois pas trop pourquoi, mais je trouve que c'est un des youtubeurs français qui écrit le mieux dans ses recherches. Il va chercher des infos que les autres n'ont pas, et dans le rythme qu'il met dans ses vidéos, c'est un super créateur, quoi, Léo Duff. Alors, ça parle de tech, et moi, je parle pas du tout de tech, enfin, ou très peu, je m'y intéresse seulement. Mais par contre, ça m'inspire énormément en termes de montage, en termes d'histoire, etc. Voilà mes trois, mon trio de tête. Avec Matt Diavela vraiment tout là-haut.
Ok, ça marche. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, on a parlé de ta chaîne YouTube. Quels sont les projets du moment? Si les gens veulent venir voir ce que tu fais et plus s'y affiniter et découvrir un petit peu tout ton univers, où est-ce qu'on peut te retrouver tout ça?
Bien sûr. Alors, Nico Seifarad sur YouTube, nicosai.visuals. Donc, Nicosai, c'est mon surnom depuis que je suis en sixième. nicosai.visuals sur Instagram. J'écris énormément sur Twitter. En fait, je me suis rendu compte que Twitter, je suis très à l'aise avec cet outil. Donc ça, c'est nicosai_ sur Twitter. Et évidemment, il y a une newsletter que j'ai développée il y a 2 semaines seulement. Donc, si vous voulez rentrer vite dans le bateau, c'est le moment. On est déjà plus de 150, je crois, ou 200 en 2 semaines, ce qui est énorme. Je pensais pas que ça allait venir aussi vite. Et ça, c'est sur mon site nicosefarad.fr.
Ok, ça marche. Et j'ai oublié de te poser ma question de fin. Honte à moi.
Vas-y, c'est une question signature.
Ma petite question signature. Si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui veut lancer une chaîne YouTube aujourd'hui ou qui se tâte à le faire, qui a deux doigts de franchir le pas, qu'est-ce que ça serait?
Il y en a plein, c'est dur, Loïc, là. C'est dur, mais alors, je pense que...
Si t'avais une petite minute, on va dire ça.
Alors, si j'ai une minute, il y a deux choses. Il y a tout ce qui se passe dans notre tête. Tout commence par les histoires qu'on se raconte. Et moi, j'ai été parmi des gens qui sont restés bloqués par le regard des autres, et notamment celui de la famille. Et il faut qu'on désacralise un peu la relation qu'on a avec notre famille concernant la création de contenu. Parce que nous, les créateurs de contenu, on est un peu des ovnis. Des parents vont dire « Ah oui, mon fils, il est créateur de contenu. » Non, c'est un truc, faut qu'on se le dise, on est des ovnis, on est des gens bizarres. Et donc, on ne peut pas attendre de notre famille d'approuver notre envie de créer du contenu. Ça, c'est la première chose. Donc, lancez-vous, même si vous n'avez pas l'approbation de votre famille. Et ensuite, techniquement, sur YouTube, concentrez-vous d'abord sur votre miniature et votre titre. Si j'ai bien compris un truc, c'est la première chose. Miniature, titre, il faut vraiment l'assimiler le plus tôt possible. Une fois qu'on comprend ça, focus sur l'histoire que vous racontez, quoi. Le storytelling est pour moi, avant même le tournage, l'éclairage, tout ça, je pense que raconter des histoires, c'est ce qui va nous aider le plus à grandir sur YouTube dans les prochaines années. Parce que les vidéos tutos, les vidéos trucs comme ça, là, c'est pas ça qui va créer de la connexion nécessaire avec votre audience. Voilà mon take. Faites-en ce que vous voulez. Mais voilà. Il y a les histoires qu'on se raconte. Et techniquement sur YouTube, miniature, titre et histoire. J'ai dû dépasser la minute, mais
trop bien. Trop bien, c'est pas grave, ça valait le coup. Super intéressant, je pense que ça aidera pas mal de monde. On partagera ce petit passage dans les formats courts et tout. Je pense que ça sera intéressant de voir ce que ça peut donner. Écoute, Nico, merci beaucoup. C'était trop cool de t'avoir en première invité. Et ce que je te propose, c'est pourquoi pas dans 2-3 mois, dans quelques temps, se refaire un petit point, essayer de voir si t'as suivi ta stratégie, si t'as toujours le même point de vue. Ça peut être un truc beaucoup plus court, hein. Ça peut être du 15, 20, 25 minutes.
Ouais, carrément.
Mais voilà, suivre un petit peu ton évolution, et ça serait sympa de faire une petite seconde partie pour voir comment ça évolue pour toi d'ici quelques temps.
Carrément. Mais je serais très curieux de savoir déjà si j'ai atteint mon objectif en juin 2023. Donc on pourra faire un talk à ce moment-là, tu vois.
Ouais.
Je pense que ça sera plein de leçons.
On fera ça.
Que je réussisse ou pas, il y aura plein de leçons et ce sera top.
Ouais, carrément, carrément. Écoute, très très chaud d'avance pour organiser tout ça. Mais merci plaisir. Beaucoup, Nico, et je te dis à très vite.
À très vite, merci d'avoir écouté jusqu'au bout.